bonsoir. Nous avons tous, un jour ou l'autre, regardé une vidéo ou écouté de la musique sur YouTube. Nous ne nous posons pas la question « qu'est-ce qui se passe quand nous regardons une vidéo ?»« Comment ça fonctionne ?»« Comment ça se finance ?» Et puis, il paraît que ce que l'on appelle les YouTubeuses, YouTubeurs, gagnent énormément d'argent. Alors, d'où vient cet argent ? Quand je regarde une vidéo, je ne paye pas. Se pose la question de la gratuité. Est-ce vraiment gratuit ? Mes invités se sont posés toutes ces questions et bien d'autres encore. D'ailleurs, ils se sont mis à 16 chercheurs pour y répondre. Bon, je n'en ai réuni que deux pour cette émission et ils sont au téléphone. Bonsoir Yvette et Franck, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Bonsoir, je suis Yvette Attila-Mioukouns. Je suis maîtresse de conférences en psychologie sociale et donc enseignante-chercheuse à l'université Sorbonne Nouvelle dans le laboratoire IRMESEN.
Moi, c'est Franck Rebillard. Donc, je suis professeur en information communication, spécialiste des médias et du numérique. Et je suis, comme Yvette, à l'université Sorbonne Nouvelle.
Voilà. Alors, vous êtes tous les deux membres de, je vais tout dire une fois, l'Institut de recherche médias, culture, communication et numérique, l'IRMESEM, je ne sais pas comment vous dites. Est-ce que vous pouvez nous présenter cet institut ?
Alors, c'est une équipe de recherche, en fait, hein, tout simplement, qui regroupe une vingtaine d'enseignants à l'université qui, en fait, sont également des chercheurs dans trois disciplines, principalement. Donc, la psychologie, là où exerce ma collègue Yvette, la sociologie, on a plusieurs collègues qui sont sociologues, et donc les sciences de l'information et de la communication, où moi j'exerce. Et donc, on unit tous nos regards et toutes nos approches pour approcher, justement, étudier ces objets que sont les médias, le numérique et la communication de façon plus générale.
Alors, vos travaux de recherche donc portent sur les médias, tout ça. Et pourquoi cet intérêt pour YouTube ?
Alors, il y a eu au départ un intérêt lié à des aspects de recherche, c'est-à-dire on cherchait un objet de recherche en fait, qui pouvait nous réunir tous et toutes en tant que chercheur et chercheuse en sciences humaines et sociales. Et justement, par rapport à ce que vient de dire Franck, YouTube, au final, ça nous paraissait réunir un peu nos différents centres d'intérêt, c'est-à-dire les médias, le numérique, mais aussi des productions culturelles et des phénomènes de communication qu'on va retrouver sur la plateforme. Donc ça permettait à chacun de pouvoir aborder le sujet, justement, comme vous l'avez dit, de mieux comprendre ce qui s'y passe, et avec différentes portes d'entrée, que ce soit sur les aspects économiques, sur les aspects de contenu, sur les aspects aussi d'interaction sur la plateforme. Donc vraiment de pouvoir aborder un sujet par ces différentes facettes.
Et comment on a... Parce que j'ai lu que vous y avez 16 chercheurs qui ont participé à cette aventure, à ce livre collectif. Comment on arrive à convaincre 16 collègues de s'intéresser à un sujet, de travailler ensemble comme ça? C'est pas évident.
Non, c'est sûr que ça n'a pas été évident. On a un petit peu pataugé au début. Mais néanmoins, le fait justement que YouTube, en fait, tout le monde, en fait, a réussi à y trouver son intérêt. Comme je disais, y a énormément de choses et on n'a pas réussi non plus à tout explorer. Il y a tellement de choses à étudier en fait sur le sujet que tout le monde pouvait y trouver son compte. Et ensuite, justement, notre objectif dans ce projet, c'était aussi la complémentarité, donc que ce soit au niveau des approches théoriques, donc voir comment on pouvait comprendre YouTube, soit du point de vue plus peut-être de la sociologie, soit du point de vue de la psychologie sociale, mais aussi, comme je disais, du point de vue en sciences de l'information et de la communication. Au niveau des aspects économiques ou d'autres de production des contenus, et aussi avec différentes méthodologies, parce que YouTube, justement, on le voit par l'immensité du nombre de vidéos, offre énormément de choses à étudier, que ce soit les vidéos, les interactions sur la plateforme, mais aussi ce qu'on peut dire de la plateforme, au final, dans la presse, ce que Google peut dire. YouTube, en fait, peut communiquer sur ses activités, fait qu'il y a vraiment de très nombreuses portes d'entrée. Et c'est ça justement qui nous intéresse. Au sein de notre équipe, on a la force d'avoir justement des personnes qui travaillent différemment en sciences humaines et sociales. Et donc on va allier tout ça pour offrir un regard le plus complet possible sur YouTube. On sait qu'on n'a pas réussi à tout faire, mais ça nous aurait pris, je pense, de nombreuses années en plus pour être totalement exhaustif. Et puis de toute façon, ça a évolué tout le temps, donc ça aurait été extrêmement difficile. Mais on a fait voilà, du mieux qu'on pouvait pour justement donner quand même un regard relativement complet, comme je le disais, des différentes facettes de la plateforme. Et cette plateforme YouTube, au final, qui certes est un réseau social, comme on peut entendre voilà, sur Facebook, Twitter, enfin, X maintenant, Instagram, mais qui a quand même ses spécificités par rapport à ces autres réseaux.
Alors, on va commencer par un peu d'histoire. Comment ça a été créé ? Comment ce phénomène de mettre des vidéos, tout ça, ça s'est créé, ça s'est développé après?
Alors, ce qu'on peut dire tout d'abord, hein, c'est que YouTube, désormais, c'est une plateforme qui est arrivée à l'âge adulte, puisqu'elle a 18 ans. Elle a été créée en 2005. Elle a été créée, en fait, par trois personnes, Steve Chen, Chad Hurley et Jawed Karim, donc aux États-Unis. Qui en fait souhaitait trouver un lieu pour justement mettre à disposition des vidéos, en particulier des vidéos personnelles. Ainsi, par exemple, la première vidéo à avoir été déposée sur YouTube, c'est une vidéo d'un de ses trois cofondateurs, Jawed Karim, qui tout simplement se filme lors d'une visite dans un zoo. Voilà, tout simplement. C'est vraiment une vidéo personnelle. Et donc la nouveauté par rapport à ce qui pouvait exister précédemment, c'est-à-dire à des vidéos de famille, aux anciennes vidéos en Super 8, de vacances, etc., c'est que cette fois-ci, on pouvait la partager non seulement avec son entourage très proche, mais on pouvait la partager potentiellement avec le monde entier. Donc au départ, c'est vraiment cette idée, c'est de profiter de la nouvelle surface un peu planétaire qui est fournie YouTube pour pouvoir diffuser des vidéos personnelles. Au départ, c'est ça, le projet YouTube. Alors cependant, ce qu'il faut ajouter, c'est que, d'ailleurs, c'est un petit peu ce qui nous a animés dans cette recherche, parce que Yvette parlait à la fois d'un objet commun YouTube, d'approche complémentaire, mais on a aussi une question en commun qui est celle de l'expression, et donc à la fois de la liberté d'expression que fournit cette plateforme, ce dispositif, mais également de l'encadrement de l'expression qui s'impose via cette plateforme. Et il y a notamment un encadrement économique, hein, il faut savoir que les trois fondateurs n'étaient pas des personnes tout à fait ordinaires, puisque les trois personnes en question étaient des salariés d'une entreprise californienne qui était déjà très active dans le numérique, c'est l'entreprise PayPal, qui était une entreprise qui proposait des solutions de commerce électronique, de transactions en ligne. Voilà, donc il faut savoir que, en fait, même si le projet était un projet véritablement d'expression élargie à l'échelle mondiale pour les individus, restait quand même en arrière-plan l'idée de pouvoir en tirer les revenus et donc forcément d'imposer certaines contraintes aux vidéastes.
Alors après, ça a été repris par Google. Est-ce que ça a changé quelque chose dans l'esprit, est-ce que ça a changé quelque chose le fait que ça a été repris?
Alors effectivement, l'acquisition est venue très vite, hein, puisque dès 2006, donc une année après la création simplement de YouTube, Google, qui à l'époque était une société encore relativement jeune, hein, puisque Google a été créé en 1998. Donc Google a racheté YouTube. Alors, est-ce que ça a vraiment changé les choses pas radicalement, puisque les deux aspects en tension dont je parlais à l'instant sont restés présents dans le projet de Google pour YouTube, hein, c'est-à-dire à la fois de pouvoir diffuser à l'échelle mondiale des contenus, et en particulier des contenus personnels, mais également avec YouTube, cette idée de devoir monétiser, rendre solvable finalement cette activité. Le seul changement dans l'organisation de cette activité, c'est que Google a appliqué finalement aux vidéos la recette que Google avait déjà employée pour son moteur de recherche, c'est-à-dire de pouvoir incruster un certain nombre de liens publicitaires, de liens sponsorisés, donc cette fois non pas dans du texte, hein, mais dans des vidéos, pour ensuite vendre ces liens à d'éventuels annonceurs.
Oui, effectivement, on a l'impression que c'est gratuit, mais pas vraiment. Il y a un financement qui est la publicité et surtout des données. Donc il y a toute la publicité, les données sont ensuite exploitées.
Tout à fait. Hein, donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que avec ce dispositif YouTube, on a trois acteurs qui sont présents finalement. Il y a à la fois les utilisateurs, les internautes, qui ont la double possibilité d'être à la fois des créateurs de contenu, mais également des consommateurs de contenu. On a les internautes d'un côté. On a un deuxième type d'acteurs qui sont les annonceurs, c'est-à-dire des entreprises qui veulent assurer la promotion de leurs biens, de leurs services, et qui pour cela veulent profiter de l'attention générée par les vidéos. Et puis au centre du jeu, on a YouTube, et en fait l'entreprise YouTube, l'entreprise Google, sa maison mère, qui elle cherche à réaliser des profits autour de cette activité. Donc c'est vrai que pour les utilisateurs, c'est gratuit, complètement gratuit, hein, puisqu'on peut se connecter à YouTube librement. En revanche, pour les annonceurs, ça n'est pas gratuit du tout, c'est eux qui payent des liens sponsorisés ou des encarts publicitaires qui sont incrustés dans les vidéos. Donc c'est un financement indirect. Il n'y a pas de financement direct par l'utilisateur, mais il y a un financement indirect par les annonceurs.
Et les données qui sont récupérées ?
Alors les données,
c'est source de profit, les données.
Alors elles servent essentiellement à Google pour perfectionner le service, c'est-à-dire qu'à partir du moment où Google connaît un peu mieux les préférences des utilisateurs, donc tout simplement à partir des requêtes hein, qui sont tapées dans le moteur de recherche, je ne sais pas, quelqu'un qui voudrait absolument écouter une radio sur la Côte d'Azur va taper Agora dans le moteur de recherche et voilà, on va savoir que cette personne est plutôt intéressée par la radio, est intéressée par des médias qui se situent dans le sud de la France, etc. Et donc ça va permettre à Google et à YouTube de façon plus générale de proposer ensuite des vidéos qui peuvent être en adéquation avec cette requête. Par exemple, des vidéos qui touchent au domaine de la radio, des vidéos qui touchent à la région sud de la France, en tout cas à la Côte d'Azur. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant, si vous voulez, pour les annonceurs, parce que ça leur permet de cibler davantage leur message. Si je suis un annonceur, par exemple, justement, je ne sais pas moi, qui tient un lieu de vacances sur la Côte d'Azur, ça va m'intéresser d'avoir en face de moi, en quelque sorte, un utilisateur qui est intéressé par la Côte d'Azur. Et donc c'est là où Google fait une exploitation de ces données, c'est que Google exploite ces données de façon à mettre en relation de façon extrêmement fine, de façon extrêmement ciblée, d'un côté les vidéos qui circulent sur sa plateforme, et d'autre part les annonceurs. Donc il amène en fait une valeur ajoutée au service, les médias traditionnels ne pouvant pas aller aussi finement dans la connaissance, par exemple, des téléspectateurs, des auditeurs d'une radio ou des lecteurs d'un journal.
Et n'importe qui peut mettre n'importe quoi ? Il y a un contrôle ? Il y a quand même quelque chose... On ne peut pas mettre n'importe quoi ?
Ça, c'est un aspect un peu complexe, dans la mesure où la régulation est en train d'évoluer en ce moment, au niveau de l'Union européenne. Alors, comme très souvent, les grandes plateformes sont assez réticentes par rapport à toutes ces opérations de régulation. Mais pour le dire vite, le grand principe, hein, c'est que sur ces plateformes, qui sont considérées avant tout comme des hébergeurs de contenu, elles ne sont pas au départ forcément responsables des contenus qui circulent. En revanche, elles ont pour obligation contrôler a posteriori ces contenus, c'est-à-dire une fois qu'ils sont diffusés, en particulier si justement des utilisateurs leur signalent leur caractère délictuel, voire criminel, ou en tout cas frauduleux. Quoi. Ouais. Mais contrairement à un éditeur, comme peut l'être par exemple justement une chaîne de télévision, une station de radio ou un éditeur de journal, on ne considère pas qu'une plateforme numérique peut contrôler d'emblée ce qui va être diffusé sur ce service. C'est simplement a posteriori, une fois que les utilisateurs l'ont posté, l'ont mis en ligne, qu'il y a un contrôle qui doit s'opérer.
Et la régulation européenne qui est en préparation, là, elle les obligerait à mieux réguler, mieux...
Tout à fait. Elle est plus contraignante par rapport à ça, pour dire simplement, hein, parce que c'est assez technique ensuite, mais elle devient plus contraignante par rapport à cela. Auparavant, on demandait plutôt aux plateformes de faire œuvre de bonne volonté, voilà, de faire en sorte de bien contrôler, mais sans forcément qu'il y ait de sanctions si les contrôles n'étaient pas rapides. Là, en revanche, avec la nouvelle régulation par l'Union européenne, disons qu'il y a plus de pression mise sur les plateformes pour que ce contrôle soit effectif et rapide.
Alors, on se retrouve après un peu de musique. Bonsoir, Michel Murator. On se retrouve pour parler de la machine YouTube avec Franck Robillard et Yvette. Je vais raccourcir hein, parce que on va dire Yvette, hein, d'accord. Alors, on en était justement sur les usagers. Est-ce qu'on peut avoir un peu de sociologie des usagers? Parce que c'est vous, c'est moi, mais pas que, il y a quelque chose derrière. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire des usagers de YouTube?
Alors justement, j'ai peur de vous décevoir un petit peu sur la sociologie des usagers, parce que ce qui est intéressant justement avec YouTube, c'est que contrairement à d'autres réseaux, par exemple comme Instagram ou comme Snapchat, qui sont plus connus pour être les réseaux actuels prisés par les jeunes, YouTube en fait brasse un peu vraiment tout le monde. Quand vous dites c'est vous, c'est moi, vous, nous, voilà, un peu tout à chacun peut y trouver son compte, parce que la diversité des contenus fait que on peut s'y retrouver, enfin j'ai envie de dire, quasiment involontairement. Parce que ça va aller aussi bien des personnes qui vont aller régulièrement consulter les vidéos d'un youtubeur faisant partie d'une certaine communauté, par exemple en lien avec des commentaires sur l'actualité ou sur un sujet en particulier. Mais ça peut être aussi pour écouter un morceau de musique, revoir un extrait d'une émission de télé, ou même un tutoriel pour faire du tricot ou changer sa chasse d'eau. Et au final, rien qu'avec ces quelques exemples, on voit la diversité des personnes qui peuvent être amenées à regarder des vidéos sur YouTube, justement avec différents degrés d'intérêt ou d'investissement. Et donc, contrairement à d'autres réseaux, on a vraiment cette diversité. Ce qu'on peut noter néanmoins, c'est que quand même la très très grande majorité des personnes ne font que regarder des vidéos. La partie des personnes qui vont créer du contenu, donc les créateurs et créatrices, est quand même minime par rapport à l'ensemble de ce qu'on va désigner comme étant les usagers de YouTube. Donc la plupart des personnes regardent des vidéos. Il y en a encore il y en a un petit peu moins qui va s'investir un peu plus en faisant des commentaires et en participant en quelque sorte un peu plus activement avec tout ce qui est aussi le partage de vidéos, faire des liker des vidéos, donc mettre le pouce vers le haut. Et ensuite, on a ces usagers très spécifiques qui sont les personnes qui vont s'investir là dans la création d'une chaîne, dans la création de contenu, avec plus ou moins de réussite, plus ou moins, de public à ce niveau-là.
Alors, il y a quand même ce besoin, donc, parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui sont des vidéos personnelles, et donc il y a quand même ce besoin de se montrer, de se mettre en scène. Donc, est-ce que c'est lié à la technique, ou est-ce que la technique ne fait que faciliter? Parce que tout le monde, à part comme ça, on constate quand même qu'il y a ce grand besoin de se mettre en scène, de se montrer.
Oui, tout à fait. Alors, justement, si on devrait le comparer avec d'autres réseaux, on pourrait faire la comparaison, par exemple, avec Instagram, qui est beaucoup sur l'image aussi, enfin, un petit peu moins sur la vidéo, mais beaucoup sur l'image. Je pense qu'Instagram, par exemple, peut être vu plus comme le réseau de la mise en scène par rapport à YouTube. Sur YouTube, justement, les communautés défendent un peu plus une volonté d'authenticité, en fait, vis-à-vis de leur communauté. Et justement, il y a certains ratés, on va dire, de la part de célébrités ou de personnes assez connues, qui vont vouloir investir la plateforme, mais sans les codes. Et du coup, ça ne marche pas du tout. En fait, les gens ne regardent pas, n'adhèrent pas, ne suivent pas les comptes en question. Et donc, ce qu'on retrouve, notamment ce que les études les entretiens sont menés avec les utilisateurs, ce qu'on retrouve, c'est plutôt le besoin de se connecter, en fait, plus que le besoin de se montrer. Alors certes, ça implique une certaine démonstration de soi, puisqu'on est avec la vidéo type facecam, qui est vraiment le contenu typique de YouTube. Mais on retrouve dans les témoignages, il s'agit davantage de créer une communauté qui partage les mêmes centres d'intérêt ou les mêmes problématiques, questions de sexualité, de maladie, tout ce qui va être un petit peu vécu difficile. En fait, ça va être surtout ce sujet-là qu'on va retrouver dans les témoignages utilisateurs, et à la fois du côté créateur, donc ceux qui vont poster les vidéos, par exemple les vidéos type vlog où on va raconter sa vie, en fait, tout simplement, mais aussi du côté des personnes qui regardent. Souvent, ce qui est exprimé, c'est ce besoin de trouver des personnes semblables qu'on va pas forcément trouver à côté de chez nous. Donc il y a cet intérêt-là aussi avec les réseaux et peut-être plus YouTube en fait que d'autres réseaux comme Facebook ou Instagram qui sont plus basés justement sur des communautés de personnes qu'on connaît en fait dans la, on va dire, comment on dit, hors ligne, dans la vraie vie. Alors que YouTube, comme ça se base plus sur des communautés d'intérêt, voilà, liées à des thématiques soit de vécu ou soit de passion, on va retrouver des personnes aux quatre coins du monde qui voilà, partagent quelque chose avec nous, que ce soit pour l'intérêt pour un chanteur, une chanteuse, une musique, ou comme je disais, par rapport à un épisode de vie difficile ou un style de vie en particulier.
Alors, par rapport justement au contenu, est-ce que vous avez, depuis la création, est-ce que vous avez constaté une évolution des contenus? Alors, en quantité, j'imagine, mais en qualité, sur les types de contenus.
Alors, pour poursuivre un petit peu par rapport à ce que disait Yvette, c'est vrai que l'image un peu immédiate qu'on peut avoir de YouTube, c'est justement ce qu'on voit à l'écran, et c'est souvent une personne seule qui parle face à la caméra, on a l'impression d'un monologue, etc. Mais c'est vrai que c'est assez trompeur, parce que depuis quelques années, il y a vraiment un mouvement de professionnalisation qui s'est opéré, et en fait, derrière les vidéos qui réalisent le plus d'audience, hein, et parfois même des dizaines de millions de visionnages, en fait, il y a des équipes qui travaillent. Donc, il y a une personne qui est mise en scène, parfois dans un environnement qui, pour des soucis d'authenticité, justement, pour évoquer un peu l'atmosphère des premiers temps de YouTube et de l'Internet, met en scène un cadre assez intime, hein, par exemple une chambre, typiquement. Mais il faut savoir qu'évidemment, tout ça, c'est des décors. Hein, et puis surtout, qu'il y a une équipe derrière qui va travailler à la fois le texte de la personne qui s'exprime, il y a des gens qui vont travailler l'éclairage, il y aura des gens qui vont monter ensuite. Donc voilà, il ne faudrait pas que finalement cet écran fasse écran à l'analyse de ce qui se passe derrière, quoi. Hein, c'est extrêmement important. Donc nous, c'est un petit peu ce qu'on a fait là, dans un des chapitres de l'ouvrage. On a observé un peu le parcours de quelques youtubeurs qui au départ étaient assez peu connus et puis qui ensuite sont devenus vraiment des youtubeurs avec une très grande notoriété. Et on voit vraiment ce passage avec au début, à la fin des années 2000, début des années 2010, des vidéos qui sont pour le coup vraiment faites de façon amateur, tout seul dans sa chambre, etc. Une deuxième période où ces youtubeurs vont garder cet environnement au moins de façade, mais en fait vont travailler en équipe. Et puis enfin, une troisième période où généralement sur leur chaîne YouTube, on va avoir deux types de contenus, à la fois des contenus très professionnalisés, souvent parce que leur notoriété leur a permis d'accéder à d'autres espaces que simplement le numérique. Donc c'est des personnes qui vont percer par exemple à la télévision, des personnes qui vont percer dans le domaine de la musique, donc qui vont avoir une carrière dans des médias ou une carrière dans des concerts, dans l'industrie de la musique enregistrée. Et en même temps, sur cette même chaîne YouTube, ils vont garder un petit espace qui va un peu conserver ses traits de la vie d'antan. Ils vont parler un petit peu des à côté, de leur métier. Ils vont se mettre en scène, par exemple, il y a une artiste internationale là, qu'on a observée, c'est Ariana Grande, bah, par exemple, elle va tenir une sorte de journal intime, mais un journal intime de sa tournée, donc ce qui est quand même assez paradoxal, parce que c'est un journal intime, certes, mais c'est d'une tournée qui réunit dans chaque stade à travers le monde plus de 10 000 personnes, quoi. Donc il y a un petit peu ce paradoxe aujourd'hui entre une mise en scène de soi qui garde cette idée d'individualité, de proximité, d'authenticité, et en fait une construction qui, elle, est très 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 organisée, quoi.
Alors, d'une part, il y a ça, c'est très, très organisé, mais il y a aussi de l'anonymat, énormément d'anonymat quand même. Est-ce que ça change la nature des contenus? Parce qu'il y en a beaucoup qui ne mettent pas leur nom, ils ne mettent pas leur truc, bon, c'est une forme d'anonymat. Et est-ce que ça joue sur la nature des contenus, sur la forme du contenu?
C'est un petit peu à nuancer ce concept d'anonymat, parce qu'au niveau des créateurs de contenu, au final, il y a relativement peu d'anonymat, ou on pourrait dire plutôt un pseudonymat, au sens où c'est des personnes qui, notamment lorsqu'elles attirent une certaine notoriété sur YouTube, certes, on ne va peut-être pas connaître leur vrai nom, où elles habitent, etc., mais deviennent des personnages à part entière, en fait, sur la plateforme et sur les réseaux, plus largement. Donc, c'est-à-dire que même si on ne connaît pas leur identité, enfin, leur identité réelle, il y a quand même des enjeux, des crédibilités, on ne peut pas faire n'importe quoi, parce que si ensuite il y a des dérapages, c'est quand même les créateurs ou les créatrices qui vont être perdants de perdre une certaine audience, de perdre justement par exemple la monétisation de leurs vidéos, donc, c'est-à-dire le revenu qui est engendré par leur production de contenu. Donc là, le rôle de l'anonymat, il n'est pas tellement sur le contenu des vidéos qu'on peut le voir. C'est plutôt sur la nature des interactions, notamment dans tout ce qui va être commentaire.
Donc, alors justement, là, voilà, sur les commentaires, justement sur les commentaires, ça donne des indications sur les usagers aussi.
Oui, tout à fait. Ouais. Et donc c'est vrai que l'anonymat, par contre, dans les commentaires, où là, c'est des personnes qui ne vont pas être assez visibles, assez publiques, même à sous pseudo pour être reconnues, on va dire, des autres, en tout cas d'un grand nombre de personnes. Là, effectivement, on peut voir que dans certains cas, ça peut donner lieu à des commentaires très, très violents, très, très agressifs sur les vidéos, et justement, ce qui peut amener certains créateurs à fermer justement ces zones de commentaires, parce que ça devient en fait du harcèlement et ça peut être très, très difficile à vivre. Après, il faut quand même relativiser, parce que ça, ce sont des choses dont on parle, et c'est important d'en parler, parce que sinon, ça peut avoir un impact très important, très négatif pour les personnes qui créent du contenu. Mais globalement, en fait, les études montrent que les commentaires sont plutôt positifs et bienveillants, parce que ça va être à l'échelle en fait des études, plutôt des commentaires où les personnes vont dire combien elles ont aimé le morceau de musique, combien le tuto pour apprendre la guitare était super bien fait et super sympa, super utile. Donc c'est plutôt ces commentaires positifs qu'on va retrouver en majorité. Voilà, ça n'empêche pas de négliger les phénomènes de harcèlement qui existent aussi sur YouTube, et notamment auprès des minorités, comme c'est aussi souvent le cas sur d'autres réseaux, donc par exemple des personnes homosexuelles ou des personnes racisées. Des femmes aussi, lorsqu'elles expriment des contenus féministes, qu'elles produisent des contenus féministes. Mais globalement, en fait, les gens vont quand même plutôt commenter pour dire qu'ils apprécient la vidéo et, encore une fois, se retrouver aussi au sein de la communauté. Même s'ils ne connaissent pas qui est l'autre commentateur, ça crée des fois des échanges très nourris, très riches, en fait, contrairement un petit peu à la caricature qu'on peut avoir du commentateur lambda sur YouTube.
Et ces commentaires, du coup, ils peuvent servir à YouTube, à alimenter les bases de données pour cibler encore les publicités, tout ça aussi, quand même.
Il semble quand même que ce soit plutôt... parce que l'analyse des commentaires, même avec les moyens de YouTube, en fait, reste très fastidieuse, en fait, par rapport notamment à la façon dont ça va être écrit, pas toujours, que ce soit en français ou en anglais, mais de manière bien orthographiée. Il semble que ça sert plutôt aux créateurs, justement, pour orienter leur contenu, en fait, en fonction des retours qu'ils ont eu, des demandes, parce que même des fois, c'est eux qui vont demander « mettez-moi en commentaire ce que vous voulez », etc. Et ça crée justement du lien pour ensuite proposer des vidéos suivantes. Il semble que YouTube ça s'appuie davantage sur les données liées au visionnage pour pouvoir mettre en avant auprès des annonceurs un nombre de personnes présentes sur la plateforme, présentes sur certains comptes, et faire relever en fait le prix des publicités. En fait, c'est surtout, on pourrait dire du point de vue YouTube, ce qui les intéresse, c'est surtout pouvoir vendre de plus de publicités et la plus chère possible, même si ça reste publicité par publicité des petites sommes. Mais en fait, c'est plus ce côté-là. Donc, ce qui les intéresse, c'est les gens restent sur la plateforme, ils regardent des vidéos et de pouvoir ensuite donner ces chiffres. On a tant de milliards de personnes qui sont sur YouTube, donc acheter des espaces publicitaires chez nous.
Maintenant, on parle de YouTubeuses, YouTubeurs. Un de mes intervenants, lors d'une émission sur le travail, disait qu'ils développaient des compétences et qu'ils avaient créé un nouveau métier. Vous avez la même approche professionnelle, je dirais. C'est devenu vraiment des professionnels. C'est un nouveau métier avec des compétences de faire de déposer, enfin de réaliser des vidéos, tout ça.
Agora Cotation.
un nouveau métier, peut-être pas totalement nouveau, au sens où c'est des compétences qu'on retrouve dans d'autres métiers de l'audiovisuel. Néanmoins, effectivement, par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure, il y a quand même une certaine professionnalisation, au sens où, à la fois, il y a des personnes qui sont, c'est leur métier, au final, qui vont être avoir généré un revenu plus ou moins important, être accompagné par une équipe de techniciens, d'auteurs, etc., pour produire des contenus. Et aussi, à côté de cela, on a les personnes qui vont le faire en amateur, mais avec une visée professionnelle, c'est-à-dire l'objectif sera de produire les meilleurs contenus possibles, donc ils vont s'équiper justement en éclairage, en matériel vidéo, qui vont travailler leur contenu, ça ne va pas être des choses qui vont être faites un peu sur le film, mais avec vraiment des choses qui vont être écrites au préalable. Donc c'est plutôt de ce côté-là qu'on pourrait dire qu'au final, même les amateurs développe des compétences professionnelles créant du contenu sur YouTube. Et c'est vrai que nous, des fois, on le voit aussi de la part de nos étudiants qui vont mettre dans leur CV création des chaînes YouTube sur tel sujet, etc. Donc ça montre effectivement certaines compétences.
Oui. Il faut savoir, si je puis ajouter, des personnes qui vraiment vivent pleinement de leur activité sur YouTube, il y en a très peu. Et toujours pour la raison que j'indiquais tout à l'heure, c'est qu'en fait, à un moment donné, si on veut vraiment développer une audience et la fidéliser, comme diraient les marketeurs, il faut avoir une régularité de production des vidéos et ça nécessite en fait de s'adonner quasiment à temps plein à cette activité et encore une fois de recruter des personnes pour coproduire les vidéos. Donc ensuite, il faut quand même rétribuer ces personnes, etc. Ce qui fait qu'au final, les équipes qui vraiment arrivent à vivre de leur activité uniquement sur YouTube sont assez réduites. En revanche, les personnes qui s'essayent effectivement en amateur, comme le disait Yvette, à s'exercer, à produire des vidéos, donc ils vont avoir des compétences à la fois pour s'exprimer en public, des compétences qui vont être dans le montage d'images, des compétences qui vont être dans la documentation pour préparer les vidéos, etc., qui vont se constituer aussi une expertise. Il y a tout un tas de vidéos qui sont en fait assez érudites, que ce soit en histoire ou parfois sur des sujets très pratiques, comme le bricolage. Et bien tout ça, en fait, ça peut être ensuite converti, mais en fait, dans d'autres secteurs d'activité. Pas directement sur YouTube, mais dans d'autres secteurs d'activité. C'est quand même plutôt ça qui domine que véritablement l'activité sur YouTube exclusivement.
D'accord. Et alors, on dit que ça crée du lien social, que ça peut créer donner des connaissances d'autres cultures, mais c'est quand même très superficiel.
Non, pas du tout. Enfin, encore une fois, je pense qu'il y a une chose peut-être à comprendre sur YouTube, c'est qu'il y a de tout. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des personnes qui vont regarder des vidéos et ça va être effectivement superficiel. Mais, encore une fois, ce que peuvent montrer un certain nombre de recherches, c'est qu'il y a de réelles communautés qui vont se créer sur YouTube, notamment dans les espaces de commentaires, où en fait, en allant régulièrement sur les mêmes comptes, les personnes vont finir par se reconnaître même par pseudo et à s'attendre en quelque sorte d'avoir des réponses de telle personne. Et justement, comme je disais tout à l'heure, le fait que les personnes se retrouvent autour d'intérêts communs, c'est ça qui va créer justement de réelles communautés comme on pourrait les avoir hors ligne. En fait, des personnes qui vont se retrouver à l'église le dimanche, il y en a qui vont se retrouver le lundi lors de la publication de la vidéo de Usul, par exemple. On va retrouver des processus similaires de régularité de rencontre et d'attente au final de rencontrer les personnes en question. Et de la même manière que les compétences professionnelles acquises, ces acquaintances acquises sur YouTube, très souvent, lorsqu'il s'agit de communautés régulières, vont se retrouver hors ligne et parfois, notamment autour de YouTubeurs ou YouTubeuses célèbres, il va y avoir ce qu'on appelle les meetings, des rencontres dans la vraie vie où les gens créent de réelles relations. Donc, des fois, c'est des relations qui restent type de fans à célébrités, mais aussi au sein notamment justement de ces communautés de fans, il y a vraiment du lien social qui peut se créer. Et puis j'ajouterais un dernier point là-dessus, comme je disais tout à l'heure, par rapport à ce qui va être un peu expérience de vie difficile, ces communautés, les gens en témoignent, apportent vraiment du soutien social en fait aux personnes. J'avais pu voir notamment une recherche sur les malades du cancer qui, en partageant leur expérience sur YouTube et en voyant des vidéos d'autres personnes qui avaient traversé la maladie, voilà, ont trouvé des choses positives pour leur propre vie, encore une fois, hors ligne personnelle. Donc c'est, voilà, à la fois, des personnes vont y trouver beaucoup de choses et des choses vraiment constructives. Et puis pour d'autres, bah, ça va être voilà, au coup par coup. Et là, du coup, il va y avoir beaucoup moins d'investissement. Donc, il faut vraiment plutôt le voir en termes de degré, quoi, de nuancer les différentes choses qui peuvent se passer.
Alors, je voulais revenir, parce que vous l'avez un petit peu abordé, mais je voulais revenir sur des, je l'appellerais des catégories d'usagers un peu particulières. C'est les usagers qui font vraiment, qui se servent vraiment, qui utilisent vraiment YouTube comme un outil de promo. Donc il y a effectivement les comédiens, la musique, les groupes de musique qui mettent des morceaux, les politiques qui s'en servent aussi. Ils mettent... Donc comment vous analysez ces publics, même des journalistes, comment vous analysez ces publics qui se servent de YouTube? C'est-à-dire qu'on est passé de l'usage privé sympa, j'allais dire, à un usage vraiment commercial, quoi. C'est un outil de publicité.
Bah, encore une fois, on va toujours faire dans la nuance. On peut retenir là-dessus, dans ce qu'on a pu voir par nous-mêmes ou par rapport à d'autres études que j'ai menées, c'est que ça ne marche pas toujours. Et qu'il y a vraiment ce côté, enfin, vous voyez, comme sur d'autres plateformes, même sur des aspects différents, où il faut pouvoir répondre au code de la plateforme et donc aux attentes des personnes qui vont regarder les vidéos. Et justement, on a pu, il y a des travaux qui ont montré qu'en politique, il y a beaucoup de politiques qui ont fait des flops en fait sur YouTube. Et dans là récemment, le seul vraiment qui a réussi à sortir son épingle du jeu, c'est par exemple Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il a justement adopté les codes de YouTube, faire du fast cam. Avoir des échanges authentiques avec les utilisateurs, que ce soit avec des lives ou via les commentaires, et surtout produire d'autres contenus que ce qui est produit par ailleurs, donc dans les autres médias, dans la presse, etc. Parce que justement, les usagers vont sur YouTube pour avoir autre chose que la télé, que la presse en ligne, et que sur Facebook, et que sur Instagram. Donc si on leur ressort la même chose, ça marche pas. Et c'est ce que se sont contentés de faire justement la plupart des politiques pendant les campagnes présidentielles. Et Jean-Luc Mélenchon a fait ça un petit peu différemment. Et lui, ça a marché. Il a réussi à développer justement, à avoir un certain nombre d'abonnés et de visionnages. Vous savez que la stratégie YouTube, c'est pas toujours une stratégie payante quand elle est faite un petit peu à la va-vite et pas forcément pensée, on va dire, pour YouTube. Enfin, parce que ça déçoit les usagers, et je pense que c'est une règle qu'on peut appliquer un peu à tous les domaines, que ce soit la musique, les médias traditionnels qui vont aller sur YouTube ou dans d'autres domaines. Il faut adopter les codes de la plateforme. Un autre exemple, mais là plus de flop, c'était aux États-Unis où donc la célèbre présentatrice et productrice Oprah Winfrey avait lancé un compte sur YouTube et ça n'a pas du tout marché en fait, parce que les gens ne voulaient pas en final avoir voilà, la télé sur YouTube. Si on va sur YouTube, c'est pour avoir autre chose que la télé. On s'est évoqué tout à l'heure avec Ariana Grande, donc c'est une chanteuse américaine qui a eu un grand succès. Ses vidéos sur YouTube ont eu aussi du succès parce qu'elle a repris des codes, entre autres, même si, encore une fois, c'est accompagné de son équipe d'agents, de producteurs, etc.
Alors, on se retrouve après un peu de musique. Bonsoir, Michel Murator. On se retrouve pour parler de la machine YouTube. Et sur la musique, ça marche mieux pour promouvoir des groupes de musique, tout ça?
Je pense qu'aujourd'hui, il faut plus le voir comme une stratégie. Les productions vont être plutôt dans des stratégies multiplateformes ou multimédia. Enfin, multimédia au sens plusieurs canaux de communication. C'est-à-dire que, à part pour des créateurs qui vont être natifs, entre guillemets, de YouTube, donc qui ont commencé sur YouTube, qui ont développé leur communauté sur YouTube, avoir une communication que sur YouTube, ça a peu de chances d'être suffisamment efficace. Donc il faut plus le voir quand on est sur des aspects de promotion, comme un canal, comme un autre, parmi plusieurs autres, qui vont être utilisés. Voilà, je pense que c'est, il n'y a pas tellement une logique. Quand les gens sont uniquement dans une logique utilisatrice, au final, sans encore une fois s'approprier la ce qui peut se faire sur la plateforme, souvent ça marche pas bien et c'est pas des choses à retenir.
Alors justement, est-ce qu'il y a des, c'est un média parmi un autre maintenant, mais est-ce qu'il y a des concurrents?
Oui, alors il y a une plateforme vraiment qui est devenue la grande concurrente de YouTube, c'est TikTok, qui réunit vraiment des utilisateurs de plus en plus nombreux. Donc nous, quand on avait réalisé notre ouvrage en 2020, il y avait à peu près 2 milliards d'utilisateurs de YouTube à travers le monde, et TikTok n'était pas loin d'approcher le milliard. Donc aujourd'hui, les deux doivent être à peu près côte à côte, alors avec un public quand même très différent, parce que TikTok, c'est un public très jeune. Mais j'ai envie de dire que ça, et là, ça rejoint le sujet qu'on a abordé juste avant la dernière pause musicale, là. Quand vous parliez de superficialité, alors je suis assez d'accord avec ce qu'a dit ma collègue tout à l'heure en disant que voilà, sur YouTube, c'est tellement varié qu'on va trouver à la fois des contenus extrêmement profonds et puis des contenus extrêmement superficiels. Néanmoins, en termes de format, ce que TikTok a contraint à faire YouTube, c'est à développer des formats courts, qu'ils appellent les shorts. Hein, puisque sur TikTok, les vidéos sont elles-mêmes très courtes. Et donc évidemment, en étant très court, on n'a pas le temps de beaucoup développer un sujet. Et donc sur YouTube, on a ce format qui se développe de plus en plus aussi, qui est adapté en plus à l'écran de terminal mobile, plutôt qu'à l'ordinateur. Donc c'est l'idée de pouvoir scroller, comme on dit, c'est-à-dire de faire défiler à l'écran des vidéos qui vont durer entre 15 et 30 secondes, allez, maximum une minute, et qu'on fait défiler sur un écran de façon un peu hypnotique, comme ça. Donc évidemment, ça ne concourt pas forcément à rendre l'esprit plus aiguisé, c'est le moins qu'on puisse dire. Même si, encore une fois, ça ne se résume pas à ça, YouTube. Mais il y a quand même cette tendance qui est importée par imitation en fait, de TikTok, qui devient un concurrent important pour YouTube. Alors, d'une certaine façon, moi, j'y réfléchissais là en cours de l'émission tout à l'heure, ça me fait penser un petit peu à ce qui s'est produit aussi il y a très longtemps, c'est plutôt au début des années 2000, où en fait, qui permettait aux gens de s'exprimer, alors on était dans quelque chose qui relevait plus de l'écrit, il y avait beaucoup moins de vidéos sur Internet au début des années 2000, qui permettait aux gens de s'exprimer, justement de se confier, de regrouper des communautés autour de soi, c'était le blog, principalement. Et puis en fait, sont arrivés les réseaux sociaux numériques, en particulier Twitter, et il y a beaucoup de personnes en fait qui ont basculé du blog vers Twitter pour s'exprimer, mais en fait très souvent pour s'exprimer très très rapidement. Simplement, c'est un concours de contrepartie, quoi, d'une certaine façon, de répartie, pardon, un concours de répartie, donc c'est pas forcément toujours très intéressant. J'ai l'impression qu'avec les shorts, il y a une évolution un peu semblable, c'est-à-dire que les vidéos un peu longues, un peu pointues, un peu approfondies, vont peut-être en proportion et en tendance diminuer au profit de ces vidéos qui sont beaucoup plus rapides, qui sont parfois pas désagréables, qui peuvent être très très bien mises en scène, etc., mais qui souvent, c'est plutôt à occuper l'esprit que véritablement à l'enrichir.
Ce qui nous renvoie à tout à l'heure, ce que nous disions sur de faire un lien social ou bien avoir une approche d'autres cultures, c'est très courte comme ça, c'est pas possible, quoi. On est quand même, ça revient, c'est vraiment très superficiel du coup.
Après, je pense qu'il faut voir qui cherche à faire quoi. C'est-à-dire que les shorts, donc c'est encouragé par YouTube ces derniers temps, et dans cette idée justement, comme TikTok, en fait, de retenir les gens sur la plateforme pour générer du visionnage et pouvoir vendre les espaces publicitaires. Et c'est vrai que ça entraîne peut-être quelque chose de moins vertueux où les créateurs, pour garder non pas juste leur public, mais plutôt les faveurs de YouTube en termes de mise en avant de leurs propres vidéos, se plient en fait à ces demandes de format. C'est peut-être des choses un petit peu plus superficielles. Mais il y a quand même toujours, on voit que les personnes y répondent parce qu'il y a la contrainte, mais ont quand même envie d'offrir un contenu de qualité à leur communauté, et donc ne vont pas faire que ça, en fait, peut-être contrairement à ce qui peut se passer sur TikTok. Donc faut le voir un peu des différents sur du point de vue des différents acteurs sur YouTube, c'est-à-dire qu'il y a YouTube qui veut faire de l'argent, qui ne veut pas se laisser dépasser par ses concurrents, donc notamment TikTok et Instagram. Et à côté de ça, il y a les créateurs pour qui c'est leur revenu, ou en tout cas une partie de leur activité qui génère du revenu, ont besoin à la fois de leur public, mais aussi du soutien, on va dire, de YouTube en termes de visibilité de leurs vidéos, qui ne peuvent pas, en fait, dire « bon, je m'en fous et je continue à faire comme j'ai envie, sinon, au final, leurs vidéos passent à la trappe et sont moins visibles ». Mais néanmoins, si au final, des créateurs qui justement créent un contenu assez pointu, assez approfondi, on voit, comme on disait, des choses par exemple sur l'histoire, l'actualité, les sciences politiques, qui sont très très travaillées, justement souvent avec des chercheurs et des chercheuses. Si tout d'un coup ces personnes se mettent à faire que des vidéos de 15 à 20 secondes pour juste faire un petit truc marrant, ils vont perdre leur communauté. Donc il y a cet équilibre. Parce que justement YouTube a existé avant TikTok et les liens justement les liens d'intérêt se sont créés avant, on peut penser que ça va pas totalement disparaître. Encore une fois, il s'agit pas du lot de tout ce qui est produit sur YouTube, il faut faire de la nuance, mais par contre dans ce qui va être dans ce qui existe sur YouTube, qui est peut-être minoritaire en termes de nombre de vidéos, parce que ce qu'il y a de plus en termes de vidéos, c'est la musique. Mais tout ce qui est les contenus plus poussés d'analyse, que ce soit en termes de vulgarisation scientifique, on peut penser quand même que ça ne devrait pas disparaître du site. Parce que justement, on ne les retrouve pas ailleurs dans des formats aussi complets et intéressants.
D'accord, et bien je vous remercie. Alors je rappelle le livre « La machine YouTube, contradiction d'une plateforme d'expression » Franck Rebillard et Yvette Assilamé-Hookens aux éditions CEF. Il ne faut pas que j'oublie de citer, sinon mon ami Hervé Le Cronier ne sera pas content. Voilà. Vous avez d'autres ressources à citer ?
Sur le sujet, oui. Pas particulièrement. Donc simplement, se procurer l'ouvrage, c'est ça qui nous semble important. J'espère que les auditeurs et auditrices pourront retenir de l'émission. C'est ce qu'on a voulu avec cet ouvrage, c'est justement apporter un peu de nuance, de dire YouTube, c'est pas que du tout bien, c'est pas non plus que du tout pas bien, au final. Il y a des choses très positives qui s'y passent, mais aussi des choses négatives. Et pouvoir comprendre justement le point de vue des différents acteurs, comprendre les différentes facettes et différents enjeux qui s'y jouent. Et on pense que, à l'heure d'aujourd'hui, où c'est quelque chose qui est très présent dans nos vies quotidiennes, c'est important de mieux comprendre ce qui s'y passe.
Eh bien, merci beaucoup. Vous pourrez réentendre Franck et Yvette le jeudi 14 décembre, toujours à 20h. Merci. On se retrouve le mois prochain pour un autre Alter Regard.